Axel Hotel présente Mood Indigo, deuxième partie, Obama, un documentaire réalisé par Guillaume Istas sur la question raciale aux États-Unis.
This is a CBS News special report.
Ceci est une édition spéciale. Nous sommes actuellement au QG des élections.
And we have breaking news.
Et nous avons une grande nouvelle, une nouvelle historique.
CBS projects that Senator Barack Obama
On peut dire que le sénateur Barack Obama sera le prochain président des États-Unis.
Will be the next president of the United States. He defeats John McCain, the senator from Arizona.
Novembre 2008. Barack Obama est élu 43e président des États-Unis d'Amérique. Le peuple noir américain exulte et chacun voit se concrétiser un rêve dont il n'avait pas imaginé qu'il se réaliserait de son vivant. Un président des États-Unis noir américain. Moi-même, après avoir fait plusieurs documentaires sur le sujet, je n'aurais jamais cru cette situation possible de si tôt. En effet, comment l'Amérique a-t-elle fait pour passer en 40 ans à peine de la ségrégation à l'élection d'un président noir ? Qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée d'Obama sur la scène politique ? Quelle est la réalité de la question raciale aujourd'hui ? Pour répondre à toutes ces questions, je me suis rendu aux États-Unis, plus exactement à New York, dans la 125e rue d'Harlem, centre névralgique du quartier noir de New York. Et de là, avec un collègue preneur de son, nous sommes partis à la rencontre de personnes susceptibles de nous éclairer sur cette étonnante évolution. Alors que nous venons d'arriver, nous découvrons que le Schomburg Center, un centre de documentation situé à Harlem et consacré à la culture noire américaine, organise une exposition à l'extérieur sur l'histoire des Noirs américains en politique. Nous rencontrons son curateur, Christopher Moore.
This is an outdoor exhibition. This is the exhibition of African Americans in American politics.
Il s'agit d'une exposition qui se déroule à l'extérieur, dont le sujet est les Noirs américains en politique. Ça va de l'esclavage jusqu'à l'élection d'Obama.
You'll find school children and tours that'll come by here.
Beaucoup de classes d'enfants et de bus touristiques viennent voir cette exposition.
So that you can be here at midnight, 2 a.m. and if you find the need to learn.
Comme on a mis des lumières dans les vitrines, on peut même la voir la nuit. Avec cette exposition, on traverse les époques. Le XVIIe siècle, les guerres de révolution, la guerre civile. On croit toujours qu'après la guerre de sécession, nous étions libres, mais c'est faux. En termes de droits constitutionnels, nous étions des citoyens de seconde zone, de 1865 à 1965. N'oubliez pas que la loi nous a séparés pendant 100 ans. Quiconque ne voit pas l'élection d'Obama comme... Je suis un historien, je n'utilise pas le terme de miracle, mais c'est quasi un miracle que cela soit arrivé aux États-Unis, ce merveilleux pays. Mais encore très imparfait.
Christopher Moore hésite à utiliser le terme de miracle. Et pourtant, l'histoire récente des États-Unis lui donnerait raison. Barack Obama, au travers de son élection, a réussi quelque chose d'inespéré. La conciliation, le temps d'une élection, de l'Amérique blanche et de l'Amérique noire. Pourtant, lors de sa campagne, il ne s'est jamais présenté comme un candidat noir et a essayé tant que faire se peut d'éviter la question raciale. Mais la révélation de son appartenance à l'église du révérend Wright a changé la donne. Le révérend noir américain Jeremiah Wright est le pasteur de l'église qu'Obama a fréquenté tous les dimanches pendant plusieurs années. Ce révérend proférait parfois des discours incendiaires contre l'Amérique blanche. La révélation de l'appartenance d'Obama à son église l'oblige à prendre la parole sur le sujet.
On the other end, we've heard my former pastor.
Le 18 mars 2008, il prononce un discours crucial à Philadelphie. Il ne se contente pas de s'expliquer. Il revient sur les éléments historiques et sociologiques qui définissent la question raciale aujourd'hui et en propose une nouvelle vision. Nouvelle parce que conciliatrice, commune aux Noirs et aux Blancs.
Jeremiah Wright use incendiary language.
On a entendu mon ancien pasteur, le révérend Jeremiah Wright, exprimer dans un langage incendiaire des opinions qui creusent le fossé entre blancs et noirs, mais aussi dénigrent ce qu'il y a de grand et de bon dans notre pays, Voilà qui, à juste titre, choque blanc et noir confondus.
Understanding this reality requires a reminder.
Pour comprendre cet état de choses, il faut se rappeler comment on en est arrivé là. Comme l'a écrit William Faulkner, le passé n'est pas mort et enterré. En fait, il n'est même pas passé. Devons-nous rappeler que si tant de disparités existent dans la communauté afro-américaine d'aujourd'hui, c'est qu'elles proviennent en droite ligne des inégalités transmises par la génération précédente qui a souffert de l'héritage brutal de l'esclavage et de Jim Crow.
L'ère Jim Crow, une période de 100 ans qui commence avec l'abolition de l'esclavage et se termine en 1965 quand est votée la loi sur les droits civiques. Noir et blanc étaient alors considérés comme égaux, mais séparés.
Salut les gars, comment allez-vous? Je vois que vous êtes équipés, que se passe-t-il?
Nous rencontrons un homme appelé Apollo, du nom de la fameuse salle de concert d'Harlem. Apollo est un homme érudit, engagé et aux occupations mystérieuses. Il nous fascine et nous passons du temps avec lui. Lors de nos discussions, il semble chargé des souffrances et de la colère de son peuple. Apollo est assez vieux pour se souvenir de l'ère Jim Crow.
Il fut un temps en Amérique, un temps que j'ai vécu, où un blanc pouvait pendre un noir en public sans être puni. Pourquoi? Parce que la loi était de son côté. C'est ce qu'on appelle l'ère Jim Crow. Les blancs mangeaient dans un restaurant et les noirs n'avaient pas le droit d'être dans la même salle. Et quand ils étaient admis, ils devaient entrer par la porte de service. Ils ne pouvaient pas boire aux mêmes fontaines. Ce n'est pas un mythe, c'est vrai. Dans le sud, quand un noir sortait avec une blanche, s'il avait de la chance, il était seulement castré.
Dans son discours, Obama revient aussi sur les inégalités historiques du système éducatif.
Les écoles victimes de discrimination étaient et sont encore des écoles inférieures. 50 ans après la décision Brown, rien n'a changé.
Pour nous parler de la décision Brown, nous nous tournons vers Avram Barlow. Avram est professeur d'histoire en secondaire dans une école située en plein cœur de Manhattan, l'Urban Academy. Il est blanc et marié à une afro-américaine et il enseigne l'histoire noire américaine dans des classes mixtes. Il fait de son cours un lieu de discussion et de compréhension mutuelle.
La décision Brown concerne une jeune fille noire du Kansas. Elle s'appelait Linda Brown. Elle vivait juste à côté d'une école blanche. Mais elle devait voyager au moins une heure pour rejoindre la plus proche école noire. Sa famille est allée en justice pour réclamer le droit d'aller dans l'école blanche. Au terme de cette affaire, la Cour suprême a déclaré la ségrégation anticonstitutionnelle. Elle annulait donc la loi de 1896 qu'on appelait la loi égaux mais séparés.
Obama revient aussi sur les pratiques discriminatoires qui ont maintenu les Noirs dans la pauvreté.
La discrimination légale, quand on empêchait des Noirs, souvent par la violence, d'accéder à la propriété, quand on refusait des crédits aux entrepreneurs noirs, quand l'administration du logement refusait de prêter de l'argent aux propriétaires noirs, quand les Noirs étaient exclus des syndicats, de la police, des pompiers. Tout ça a fait que les familles noires n'ont jamais pu accumuler un capital conséquent à transmettre aux générations futures. Cette histoire aide à expliquer le fossé économique entre noirs et blancs.
Un des moyens utilisés pour lutter contre cette discrimination légale a été la mise en place dans les années 70 de l'Affirmative Action. L'Affirmative Action est un ensemble de mesures visant à sortir les minorités de la pauvreté. L'État a alors imposé aux administrations d'engager un quota obligatoire de personnes issues de ces minorités. Mark Riley, journaliste politique.
À l'origine, dans certaines villes comme Richmond en Virginie, où 30 à 40% de la population était noire, n'y avait pas de pompiers ou de policiers noirs. Ce que l'affirmative action était censée faire, c'était remédier à cette situation. Et pour chaque pompier blanc, on engageait un pompier noir. Avec le temps, les gens ont vu ces mesures d'un mauvais œil. Ils avaient le sentiment, à tort je pense, qu'on donnait leur boulot à des gens non qualifiés.
Dans son discours, Obama aide à comprendre ce ressentiment de la population blanche.
La plupart des Américains de la classe ouvrière et de la classe moyenne blanche n'ont pas l'impression d'avoir été spécialement favorisés par leur appartenance raciale. Quand on leur dit qu'un Afro-Américain qui décroche un bon job ou une place dans une bonne faculté est favorisé à cause d'une injustice qu'ils n'ont pas commise, la rancœur s'accumule au fil du temps.
Il y a un grand écart entre les revenus d'une famille moyenne blanche et ceux d'une famille moyenne noire. L'affirmative action n'a pas vraiment changé la donne. Vous savez, je ne sais pas. Il y a toujours cette idée présente dans notre société depuis la fin de l'esclavage que quand tu donnes quelque chose aux Noirs, ça signifie prendre quelque chose aux Blancs.
Sur la 125e rue d'Harlem, quelques stands sur les trottoirs proposent de nombreux livres et publications qui abordent la question noire. On y trouve aussi bien les pamphlets incendiaires des Black Muslims que la réflexion posée de Martin Luther King.
Appelez-moi frère Shabazz, je suis juste un frère.
Un des stands est tenu par un homme du nom de Shabazz. Shabazz possède un certain charisme, il est grand, sa mâchoire est carrée, sa voix est douce et son regard pénétrant.
You have the highest unemployment rate.
Nous avons le plus haut taux de chômage,
you have the highest infant mortality
rate. Le plus haut taux de mortalité infantile,
see, you have the highest rate of diabetes,
de diabète,
and AIDS,
de gens atteints du sida,
drug use,
de consommation de drogue,
teenage pregnancy, etc.
Le plus de filles mères, etc.
So what is it? What good is it to have politics?
Alors à quoi ça sert la politique?
But you have no economic power.
Si on n'a pas de pouvoir économique.
You don't control your neighborhood.
On ne gère pas le quartier,
you don't control your community.
Ni la communauté.
You don't control your healthcare.
On ne gère pas nos soins de santé,
you don't control your police department.
Notre police,
you don't control your housing.
Nos logements,
your education.
Notre enseignement,
your welfare. Your employment.
Notre sécurité sociale, nos emplois.
What do it mean to say I have a black mayor?
À quoi ça nous sert d'avoir un maire noir, à nous, en tant que peuple?
How do it benefit you? As a people, or us as a people. That's symbolic.
C'est symbolique.
Legacy of defeat was passed on to future generations.
L'expérience de l'échec a été léguée aux générations futures.
Those young men, increasingly young women who we see.
Ces jeunes hommes et de plus en plus ces jeunes femmes
languishing in our prisons.
Que l'on voit au coin des rues ou au fond des prisons.
Without hope or prospects for the future.
Sans espoir ni perspective d'avenir.
White people have better jobs.
Les Blancs ont des meilleurs boulots que nous.
And that's another trick that they put on us.
Et ça, c'est encore leur système qui nous piège.
Because the fact is, I went for a job last week. I filled out an application.
Je me suis présenté à une formation pour être intendant de maison.
Not good money, but
c'est un boulot qui rapporte
$600 a week.
$600 la semaine.
Now, once I filled out the application, I see on it. If you have a record,
une fois que j'ai rempli le formulaire, je vois
criminal record, you can't, continue getting the
school. Si vous avez un casier judiciaire, vous ne pouvez pas suivre la formation.
Oh, wait a minute.
Attendez une minute.
All been in jail. Every black man from the age of
tous les Noirs entre 15 et 50 ans ont un casier judiciaire.
They put us in jail for trespass.
Ils nous arrêtent pour tout. Pour être passé au rouge,
they put us in jail for every little thing, little small things that you imagine. Having a beer, walking the street drinking a beer, they put you in jail for that.
Pour avoir bu une bière dans la rue,
now,
pour tout.
They know that with a record, we can't get a job.
Avec un casier, c'est impossible d'avoir un job.
So why are they doing this?
Pourquoi font-ils ça?
You go out to Rikers Island. You take this out to Rikers Island.
Regardez la prison de Rikers Island.
Rikers Island is 85% black.
Il y a 85% de noirs là-bas.
Why is that?
Pourquoi?
Even for those blacks who did make it.
Même pour les noirs qui s'en sont sortis.
Questions of race and racism.
La question du racisme continue de définir fondamentalement leur vision du monde. Pour les gens de la génération du révérend Wright, le souvenir de l'humiliation et de la peur n'a pas disparu. Pas plus que la colère et l'amertume de ces années.
Quand Apollo évoque avec nous le meurtre de Martin Luther King, cette colère dont parle Obama dans son discours apparaît de manière évidente.
His message was a message of peace.
Son message était un message de paix.
You know, a transformation which he brought about, unfortunately and sadly.
Une transformation qu'il a malheureusement accomplie en payant de sa vie et de son sang.
But this country goes on to show you that.
C'est comme ça dans ce pays.
Hey, you stand up for yourself.
Tu veux te battre pour les tiens?
We'll knock you back down.
On te frappe encore plus fort.
They murdered him.
Ils l'ont tué.
Murder, outright cold-blooded murder.
Tué de sang-froid.
They do to Malcolm X.
Regardez ce qu'ils ont fait à Malcolm X.
Cold-blooded murder.
Assassiné de sang-froid, lui aussi.
These were the voices of Black America. We didn't have no voice. What did they do? They killed Malcolm and they killed Martin Luther.
C'était les voix de l'Amérique noire et ils les ont tués.
So now they got a president that cared about Black people. Democrat.
Ensuite, on a un président qui se soucie des Noirs, Kennedy. Et qu'est-ce qu'ils font?
They kill him.
Ils le tuent.
Outright murder in Dallas, Texas.
À Dallas, au Texas.
Now, his brother takes the mantle off.
Son frère prend la relève et qu'est-ce qu'ils font?
Murdered him.
Ils le tuent lui aussi.
So, what are they telling you in this country?
Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce pays?
Yo, you are sitting duck.
Que nous sommes des cibles.
You either fall in line or you will be buried in a line.
Et que nous tomberons les uns après les autres.
And that is the philosophy of this country.
C'est ça, la philosophie de ce pays.
That anger may not get expressed in public.
Cette colère ne s'exprime peut-être pas en public. En présence de collègues ou d'amis blancs. Mais on l'entend chez le coiffeur ou au repas de famille. Et à l'occasion, on l'entend aussi le dimanche matin à l'église. Le fait que tant de gens soient surpris d'entendre cette colère dans certains sermons du révérend Wright
simply reminds us of the old truism.
Nous rappelle le vieux truisme.
The most segregated hour of American life.
À savoir que le moment où il y a le plus de division en Amérique, c'est le dimanche matin.
I can no more disown him than I can disown.
Je ne peux pas plus le renier que je ne peux renier la communauté noire.
I can no more disown him than I can disown my white grandmother.
Je ne peux pas plus le renier que je ne peux renier ma grand-mère blanche.
A woman who helped raise me, a woman who.
Une femme qui a fait tant de sacrifices pour moi.
A woman who loves me as much as.
Une femme qui m'aime plus que tout au monde.
But a woman who once confessed her fear of black men.
Mais aussi une femme qui m'avouait sa peur des noirs qu'elle croisait dans la rue.
And who on more than one occasion has uttered racial or ethnic stereotypes.
Et que plus d'une fois, j'ai entendu faire des remarques racistes qui m'ont répugné.
These people are part of me.
Ces personnes sont une partie de moi.
And they are part of America.
Et elles font partie de l'Amérique.
This country that I love.
Ce pays que j'aime.
Aujourd'hui, Barack Obama, un homme dont les racines sont américaines et kenyanes, est président des États-Unis. L'accession d'un noir américain à la présidence a une portée symbolique énorme. On est presque tenté de croire que l'Amérique a enfin tiré un trait définitif sur son passé ségrégationniste. Les journaux s'enthousiasment en parlant d'Amérique post-raciale.
Oui, on essaye de savoir un peu ce que ressentent les gens d'Harlem à propos de l'élection d'Obama.
Ce qu'ils en pensent. Vous êtes prêts à enregistrer?
Ready now? Okay, so
C'est
que du bon pour nous, les
Afro-Américains.
Tout ne va pas changer d'un coup, mais ça va changer. D'ici 3 ans, le changement sera majeur.
Bush
nous a détruits et Obama va nous remettre sur pied. Ça va s'améliorer.
Housing will pick up. Jobs will pick up.
L'emploi, le logement. Je pense qu'on verra une réelle amélioration avec le deuxième mandat d'Obama.
Le fait que ce soit un président noir, c'est un exemple. Si tu veux être président, tu peux être président. Même si quelqu'un me dit que c'est impossible, je l'ai vu le faire. Alors je sais que je peux le faire. Son élection nous a inspiré plus que tout ce qu'il a fait auparavant.
J'adore Obama.
Dans le Marcus Garvey Park de Harlem, nous évoquons Obama avec une employée communale qui prend sa pause.
Je portais justement son t-shirt. Vous avez manqué ça.
I love Obama. Thank God we have a black president.
Dieu merci, nous avons enfin un président noir.
Because you know why? It's not even about the color. It's about what he's doing for us today.
Il ne s'agit pas vraiment de couleur. Il s'agit de ce qu'il fait pour nous aujourd'hui.
You know, he's getting involved. You understand what I'm saying? He's making moves. You understand what I'm saying? But everybody cannot expect him to do.
Il fait bouger les choses, mais il ne peut pas faire tout seul.
Someone has to help him out.
Faut l'aider.
You know, they want to put everything on him. He's one man.
C'est juste un homme.
You know, he's one man trying to help the United States of America.
Un homme qui essaye d'aider les États-Unis.
You understand what I'm saying? I love Obama.
J'adore Obama.
And I voted for Obama.
J'ai voté pour Obama.
And thank God, Obama's here.
Et Dieu merci, Obama est là.
Since this man has been president,
Avram Barlow revient avec nous sur la première année de la présidence d'Obama.
Less than a year, what is it, 10
months? Depuis que cet homme a été élu président, en moins d'un an,
there have been two or three times where there have been incidents that have taken place.
Il y a eu 2 ou 3 incidents où le racisme a clairement été un facteur déterminant.
Le 16 juillet 2009, un professeur d'université noir américain, Henry Louis Gates, est arrêté par la police alors qu'il tentait de rentrer chez lui.
The Gates incident, right?
L'affaire Gates.
This is the limits.
Cette affaire montre les limites de son pouvoir
racial.
Quand il s'agit de la question raciale.
Lors d'une conférence de presse, Obama est amené à s'exprimer sur le sujet.
I don't know all the facts.
Je ne connais pas tous les faits.
What's been reported, though,
ce qu'on m'a dit,
is that the guy forgot his keys.
C'est qu'il avait oublié ses clés,
jimmied his way to get into the house,
et qu'il avait tenté de pénétrer dans la maison. Quelqu'un a appelé la police pour avertir d'un cambriolage possible.
And at that point, he gets arrested for disorderly conduct.
Il a alors été arrêté pour des faits pour lesquels il sera relâché plus tard. Tout ce que je peux dire, c'est que le policier a agi stupidement.
He didn't say it was racist.
Il n'a pas dit que c'était raciste.
But he said it was stupid.
Il a dit que c'était stupide.
There was a firestorm.
Il y a eu une tempête de réaction.
And he had to back off of that.
Et il a dû faire marche arrière.
Say, I don't think racism had anything.
Et dire que le racisme n'avait rien à voir là-dedans.
He invited the policeman and the
professor. Il a même dû inviter le policier et le professeur à la Maison Blanche.
It didn't look like two black men, him and Gates, two black.
Et pour ne pas que ça paraisse comme étant deux noirs qui invitent un blanc, il a demandé au vice-président d'être là.
So that it was balanced and the cameras could.
De manière à ce qu'il y ait un équilibre et les caméras pouvaient le voir.
There are also those who claim that our reform efforts would ensure illegal immigrants.
When presidents come to the Congress every year and give a State of the Union.
Quand le président vient au Congrès chaque année pour faire son discours sur l'état de l'Union, il y a un certain respect qui lui est dû. C'est censé être son moment.
This is the first president to stand up.
C'est la première fois qu'au milieu du discours,
a congressman yells out, "You lie."
Un sénateur se lève et hurle, "Vous mentez."
Jimmy
Carter a dit à ce sujet qu'il y avait du racisme là-dedans.
The black president of the United States has to get up and say no, I don't.
Le président noir des États-Unis s'est prononcé sur le sujet en disant Je ne crois pas que ce soit du racisme.
This president, I think, has exposed himself as a guy over and over and over again.
Au cours d'une émission de télévision, Glenn Beck, l'animateur vedette de la chaîne Fox News, se lâche sur Obama suite à l'affaire Gates.
Who has a deep-seated hatred.
Ce président a montré encore et encore qu'il avait une haine profonde vis-à-vis des Blancs ou de la culture blanche, je ne sais pas ce que c'est, mais vous ne pouvez pas assister au discours du révérend White pendant 20 ans et ne pas subir un lavage de cerveau.
What kind of president of the United States?
Quel genre de président condamnerait immédiatement un policier? De même que quel président condamnerait quelqu'un parce qu'il est noir? Ça ne se fait pas.
Et maintenant Obama, comment tu dis? On l'adore. Mais je ne sais pas à quel point eux le détestent. Vous devez enregistrer ça. Je ne sais pas à quel point eux le détestent. Ça va aller pour lui s'il n'est pas assassiné. Car croyez-moi, il y a des gens qui y pensent.
Que se passerait-il si Obama reconnaissait que les attaques à son encontre sont de nature raciste?
S'il disait cela,
eh
bien, je ne sais pas.
I don't know.
Eddie Glaude, professeur en charge des études afro-américaines à l'université de Princeton.
Nous sommes si heureux d'avoir notre premier président noir. Mais le prix à payer, c'est que nous ne pouvons plus parler des races en public désormais. Et ça a du sens. Il n'aurait jamais pu être élu s'il avait été vu comme un candidat noir. Parce qu'ici, les candidats afro-américains qui reviennent sur la question du Black Power restent des candidats. Ils ne représentent que leurs intérêts. L'élection d'Obama n'est pas la fin d'un processus, mais le début d'un formidable chantier à réaliser.
Qu'en est-il de la réalité de la question raciale aujourd'hui? Un an après l'élection de Barack Obama, qu'en est-il de cette réalité chez les jeunes, chez ceux qui n'ont pas connu Malcolm X, Martin Luther King, ni même Jesse Jackson? Chez ceux qui ont grandi dans un monde où le hip-hop des ghettos est devenu le fer de lance de l'industrie musicale? Qu'en est-il pour ceux qui ont grandi dans une époque où les médias donnent l'illusion d'une égalité raciale? Dans une Amérique où les gens issus des minorités seront bientôt plus nombreux que les Américains d'origine anglo-saxonne? Pour tenter de répondre à la question, nous rencontrons les élèves de Avram Barlow dans une classe de son école, l'Urban Academy. Les élèves d'Avram ont 16 ans. Ils sont blancs, noirs et latinos, et ils nous livrent leurs impressions. La première chose dont j'aimerais discuter, c'est qu'est-ce que vous connaissez de la lutte pour les droits civiques?
Honestly, seeing, you know, over the course of a couple hundred years, what's happened just.
Honnêtement, je pense qu'après ce qui s'est passé avec la ségrégation et l'esclavage, je pense qu'en tant que société, on a fait un long chemin. Je me sens de cette génération. Je n'ai pas dû subir de telles injustices. La vie est plus facile. Mais on sait aussi qu'il existe encore un racisme subliminal, sous le manteau. Les gens ne l'expriment plus comme avant. Ça rend la vie plus facile, mais ça ne veut pas dire que le problème est résolu.
Basically, what I've come to understand is that America is a weird place.
L'Amérique est vraiment un endroit étrange.
Even 100 years ago, you know, people.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il n'y a même pas 100 ans, les gens s'entretuaient dans la rue.
And now, you know, people are or try to pretend that, you know, like.
Et maintenant, on fait comme si le racisme n'existait plus. Mais il existe. Et je peux le sentir dans ma vie de tous les jours. Je peux le sentir aussi quand je suis avec mon groupe d'amis de toutes origines et que la police veut contrôler l'un d'entre nous.
Est-ce que vous pensez que l'école aide à résoudre la question raciale? Dans d'autres écoles, ils disent que la mixité est suffisante pour résoudre ce problème.
D'abord, rappelez-vous, on est ici à New York, et ce que vous appelez mixité, eh bien, dans cette ville qui est la plus libérale, où les gens ont voté en majorité pour Obama, les écoles ne sont pas mixtes. La plupart des enfants noirs ne vont pas à l'école avec les enfants blancs. Donc, on doit faire marche arrière. Quand vous dites qu'on pense que la mixité est suffisante, en réalité, on n'y croit même pas.
Et le fait que les Blancs s'installent à Harlem, est-ce que ça n'aide pas à créer un mélange des populations?
À New York, je ne sais pas pourquoi les gens persistent à penser que le melting pot est une bonne idée. Selon moi, c'est juste un rassemblement de gens d'un peu partout et qui sont là pour faire du business.
Oui, je voulais aborder un autre sujet. Que savez-vous de l'affirmative action? Comment voyez-vous ces mesures pour l'intégration des minorités?
One thing that I think about affirmative action is that sometimes it can be a little unfair to the other side for white people because
parfois c'est injuste vis-à-vis des blancs.
If there's because of affirmative action, I think that sometimes if there are two people in the same situation,
si deux personnes issues de la même classe sociale postulent pour le même job,
but one of them is black and one of them is white,
et que l'une est noire et l'autre est blanche,
they're going to hire the black one over the white one.
Le noir sera engagé d'office à cause de l'affirmative action, parce que les employeurs ont un quota de noirs engagés. Sinon, ils ont des amendes. Du coup, le blanc n'a pas le job parce qu'il est blanc. Alors, c'est injuste.
Je ne suis pas du tout d'accord avec Peter quand il dit que ce n'est pas juste pour le blanc. Un blanc a 20% de chances en plus de trouver un job. Et ça, c'est un fait.
That is fact. That is not fiction. You know? And I don't think that the white guy is going to be completely devastated because
le blanc ne sera pas complètement dévasté parce qu'il n'aura pas eu le job.
He can just as easily go on Craigslist and find another job for people for somebody who wants to hire.
Il n'a qu'à faire les petites annonces et il trouvera un boulot auprès de quelqu'un qui veut un blanc bien éduqué.
Putting kids of different races in the same school together.
Mettre des enfants de races différentes dans la même classe ne résout pas nécessairement la question raciale. Si à la même table je mets deux enfants noirs, deux enfants blancs, deux enfants latinos et deux enfants asiatiques, si on doit discuter un problème et que les noirs et les blancs le voient de manière différente à cause de leur parcours, il est nécessaire que le professeur fasse sentir aux enfants qu'ils sont en confiance et qu'ils peuvent dire ce qu'ils pensent, de les amener à s'écouter les uns les autres et à ne pas s'attaquer. C'est une compétence. On doit former les professeurs à cela.
Pensez-vous qu'on va vers une société post-raciale?
Comment vous dites? Une société post-raciale? Je ne suis pas d'accord. Si vous regardez toutes ces choses qui ont eu lieu dans notre histoire, ce n'est pas comme si le racisme avait diminué. C'est presque comme si on l'avait caché sous le tapis. On fait comme s'il n'était pas là. Tu nettoies ta maison et tu mets la poussière sous le tapis.
Does that mean it's not there?
Est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus de poussière?
You can't see it.
On ne peut pas la voir.
You can't see it. It's not on your face. It's not on the floor.
Ce n'est pas sur ton visage. Ce n'est pas sur le sol.
But does that mean it's not there?
Mais est-ce que ça a disparu pour autant?
Well, I think that. I agree with Alyssa. I think.
Je suis d'accord avec Liz. Pour que la société soit post-raciale, tout le monde devrait avoir le même niveau de pouvoir. Vous jouez au Monopoly en France?
Monopoly? All right, you're in the middle of a game of Monopoly.
Vous êtes dans le milieu de la partie.
You're winning, you're winning really.
Et vous gagnez.
Everybody else is poor. They land in all your blocks or whatever, you know.
Tout le monde perd et loue vos maisons.
Now, they get really upset.
Ils sont en colère.
Are you gonna start the game over and give everybody?
Est-ce que vous allez arrêter et donner $2,000 à chacun?
No, you're not gonna do that.
Non.
You know, because whatever you did.
Parce que d'une manière ou d'une autre, vous avez travaillé pour en arriver là.
The people who are in power don't want to not be in power.
Les gens qui ont le pouvoir ne veulent pas le lâcher.
So, like, I don't see reaching a post-racial.
Je n'imagine pas de société post-raciale dans un avenir proche.
You know, I think the same people who were in power last.
Ceux qui étaient au pouvoir l'année passée sont toujours là.
You know, I don't think that changed.
Ça n'a pas changé avec l'élection d'Obama.
But,
mais
I will say,
je dirais qu'on a fait beaucoup de progrès.
I'm black.
Je suis noir. Et pour ma part, je ne déteste pas les blancs.
Just so you know, I sound a little angry, but I do not.
Je parais en colère, mais rassurez-vous, je ne déteste pas les blancs.
Qu'est-ce que vous pensez de cette expression qu'on a entendue pendant l'élection d'Obama, l'Amérique post-raciale?
Post-raciale.
Shabazz réagit à cette expression utilisée par les médias lors de l'élection d'Obama.
Post, c'est après. Comment peut-on être dans l'après-racial alors que le racial est encore là? Non, je pense qu'il y a plus de racisme que jamais. Avant, c'était un racisme affirmé. Puis c'est devenu subtil, institutionnalisé. Maintenant, ça se réaffirme de nouveau.
Because it's boiling up so much.
Ça boue de toutes parts.
Part of it is the election of President Barack Obama.
En partie à cause de l'élection d'Obama.
You see him getting all, there's all types of opposition to everything that he tries to do.
Regardez le nombre de gens qui l'attaquent.
And they try to say, some people say, oh, it's just politics. This is because this is my political belief. But if you look at it, you would see that it's rooted.
On essaie de faire croire à une opposition politique, mais ça vient du racisme. Donc, post-racial, non, pas l'Amérique.
Mon nom est Jamal.
À côté de Shabazz se tient un homme qui a écouté notre discussion.
I'm currently a principal of a middle school in the Bronx. Je suis le principal dans une école du Bronx, mais je vis encore à Harlem.
Nous entamons avec lui une discussion sur la question du racisme.
C'est un problème moins grave qu'avant, mais c'est encore un problème. Beaucoup de Noirs et de Latinos sentent que le patron, c'est toujours le blanc. Les Blancs contrôlent encore la plupart des entreprises. Ceci étant dit, je pense que le problème n'est pas racial, mais économique.
And because of history and slavery and racism and Jim Crow.
À cause du racisme, de l'esclavage, de l'ère Jim Crow.
Blacks, African Americans mostly live in poor communities.
Les Noirs vivent pour la plupart dans des quartiers pauvres.
Because, you know, we got a late start, you know.
On a donc démarré plus tard. white Americans were way ahead, further ahead than we were.
Les blancs ont plusieurs longueurs d'avance sur nous.
So it's an economic problem.
C'est un problème économique.
We're raised to survive, not really raised to excel.
Nous avons été éduqués pour survivre et non pour réussir.
So we're just trying to survive.
Nous essayons de survivre.
I'm 33, so I was born in 76.
J'ai 33 ans. Je suis né en 1976.
That was 11 years after the Civil Rights and the Voters' Rights Act.
11 ans après la lutte pour les droits civiques. Je suis donc la première génération qui éprouve véritablement la nouvelle Amérique.
My parents, they came up with very racist time.
Mais mes parents ont connu une époque extrêmement raciste.
So they raised us to just survive.
Ils nous ont donc éduqués pour survivre.
And what do you...
Et qu'est-ce que vous apprenez à vos étudiants ?
I teach them to be the best.
Je leur apprends à être le meilleur.
I teach them to not survive, but excel.
À réussir, et pas seulement à survivre.
I teach all my students that they all have something special inside them.
Je leur montre qu'ils ont tous quelque chose de spécial en eux.
To find out what that special thing is.
Et que c'est notre job de faire découvrir ce qu'est cette chose.
So they all have great potential.
Ils ont tous du potentiel.
To find it together and then live that potential.
Et je leur apprends à le trouver et à l'exploiter.
New York est une des villes les plus cosmopolites au monde. Chaque quartier a été fondé par une communauté d'immigrants et chaque année, de nouvelles vagues d'immigration viennent s'ajouter aux communautés existantes. Le Bronx est composé en grande partie de Latinos et de Caraïbéens. Il nous semble que pour ces communautés, la question raciale ne se pose pas de la même manière que pour les Noirs américains. Ils sont arrivés beaucoup plus tard et sont venus de leur plein gré. La colère noire américaine qui trouve son origine dans l'Amérique esclavagiste ne rencontre au sein de ces communautés que peu d'écho. Nous avons découvert une maison de jeunes située à Hunts Point, dans le sud du Bronx. Cet endroit déploie une énergie insensée en ateliers artistiques, écoles des devoirs, crée des liens entre les gens, sensibilise à l'environnement et exerce une pression quant à la gestion du Bronx. L'ouverture des gens qui y travaillent et la volonté sincère d'insérer les jeunes du quartier dans la société nous donnent envie de les rencontrer. Bonjour, mon nom est Guillaume et je fais un documentaire sur la question raciale aux États-Unis. Et je voudrais connaître vos points de vue, mais je ne connais pas vos noms.
Mon nom est Tafiani. Je suis jamaïcaine.
Nous entamons une discussion avec un groupe de jeunes filles actives au Point. Elles ont 14-15 ans et sont pour la plupart issues d'Amérique latine et des Caraïbes.
Kayla, je suis jamaïcaine, polonaise et allemande.
Alexis, I'm Puerto Rican and half Japanese.
Je suis portoricaine et japonaise.
Well,
ma première question est la suivante. Avez-vous l'impression que les communautés se mélangent ici, ou qu'elles sont plutôt séparées?
Dans le sud du Bronx, peut-être dans le Bronx en général, il y a beaucoup de communautés. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'interactions. Chacun reste avec les siens.
Toutes ces cultures différentes devraient se rencontrer plus. Dans mon quartier, dans ma communauté, il y a plein de gens différents. Des Portoricains, des Dominicains, des Israéliens. On sait qu'ils sont là, mais on ne les connaît pas. On ne se rencontre pas.
Moi, ce que j'aime dans mon école, c'est qu'il y a beaucoup de diversité. Des Noirs, des Hispaniques, des Blancs, des Coréens, et que tout ça se rencontre. Ce que j'aime aussi, c'est que mon école nous emmène dehors et utilise la ville comme un lieu d'enseignement. Peu d'écoles font ça. Non seulement on se rencontre entre communautés dans la classe, mais en plus on rencontre la vie de la ville. Je pense que le meilleur endroit pour apprendre, c'est l'école. En plus, on n'a pas encore l'esprit formaté.
On ne juge pas les autres cultures. On est des jeunes. On voit les autres tels qu'ils sont et non pas en fonction de leurs origines.
La culture est importante aux États-Unis. Quand on a immigré et qu'on vit là, on est américanisé. Je ne comprends pas les gens qui disent « je ne les aime pas parce que je suis de telle origine ». On est en Amérique, peu importe d'où on vient.
I completely agree with Tafiani. Like, I think that's one of the problems, especially New York City, has been, I guess, the icon or the idea of a melting pot.
Je suis d'accord avec Tafiani. Une des choses qui pose problème particulièrement à New York, c'est cette fameuse idée du melting pot. Effectivement, il y a plein de communautés, mais je vis ici et je sens que l'idée du melting pot ne correspond pas à la réalité. Je suis péruvienne, mais je ne mange pas de plats péruviens. Je ne célèbre pas les jours de fête. On est de plus en plus américains. C'est chouette d'être diversifié, mais je ne crois pas qu'il y ait de véritable échange entre la culture d'origine et ici.
Comprenez-vous pourquoi certains Noirs sont en colère envers les Blancs?
On comprend avec ce qui s'est passé il y a des centaines d'années, l'esclavage et tout ça.
Mais ce n'est pas quelque chose que vous portez avec vous comme un grudge.
Mais cette rancœur n'a plus vraiment sa place au XXIe siècle. On vit tous ensemble. Tous les Blancs ne sont pas riches. Il y a des Blancs qui vivent juste à côté de chez toi et tu vas leur en vouloir parce qu'ils sont Blancs. Ce sont des préjugés raciaux. On vient du même endroit. On est dans la même communauté. Je ne vois pas où est la différence.
So will you guys like hang around here in this neighborhood, or will you hang out like where you live and your high school and stuff?
I live out here.
You live here? Yeah. Okay.
I live right over there.
Oh, nice. Okay.
Oh, looks like a little.
L'Amérique, aujourd'hui, reste encore une terre d'immigration. Le melting pot est une réalité qui, même si elle n'a pas les couleurs d'une mixité idéale, façonne la société américaine en profondeur.
J'étais avec mon amie Christine en vacances à New York et j'avais envie de sortir, d'aller faire du shopping. Et elle, tout ce qu'elle voulait, c'était bronzer. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont les Blancs avec le bronzage?
C'est cette réalité multiculturelle que relaie aujourd'hui la télévision. Un soir, nous sommes tombés sur un show appelé Race in Your Face, qui, à sa manière, tente d'aider à la compréhension mutuelle entre communautés.
Mon amie Jackie Garrett m'a proposé l'idée de l'émission d'aujourd'hui. On est tous confrontés aux stéréotypes raciaux. On s'interroge tous et aujourd'hui, il n'y a pas d'interdit. On peut tout demander. On va affronter nos clichés raciaux.
Chaque participant est issu d'une communauté différente et pose une question à l'autre sur sa communauté.
Quand je vais au supermarché, je vois toujours des latinos avec 6 ou 7 enfants. J'en vois jamais avec un seul enfant. Je me demandais pourquoi.
Je remarque que souvent, les mères noires, quand elles réprimandent leurs enfants, elles parlent très fort. Pourquoi sont-elles si démonstratives?
L'autre jour, j'étais au magasin. J'ai vu 7 personnes sortir d'une voiture. J'ai remarqué que c'était souvent des latinos.
À propos de ces Afro-Américains qui portent des diamants et tous bling-bling, pourquoi les Noirs aiment tant porter tous ces bijoux?
Aussi naïve soit-elle, la démarche de Race in Your Face est étonnante pour un Européen. Elle prend à bras-le-corps le problème de la cohabitation des communautés et révèle un certain pragmatisme de la société américaine sur des questions aussi sensibles. Peut-être cette approche pragmatique vient-elle du fait que les Américains sont, à l'exception des Amérindiens, tous des immigrants. Ils ont tous quitté un pays et formé une communauté sur une terre nouvelle. Cette expérience est à la base de chaque famille américaine. C'est peut-être ce qui les lie le plus au-delà des clivages communautaires.
About Obama and how Harlem feels
with Obama, you know.
Oh, what they feel about Obama?
Comment ils vivent Obama?
Dans les rues d'Harlem, un Caraïbéen profite de notre micro pour s'adresser à Obama.
Well, to be honest with you, Obama.
Pour être honnête avec toi, Obama.
I know you want to try.
Je sais que tu essayes de faire de ton mieux.
My brother.
Mais mon frère.
I do respect. This ain't got nothing to do with color, black, white, Chinese.
Ça n'a rien à voir avec la couleur. Noir, blanc, chinois.
It's foreigners that make this country what it is.
Ce sont les étrangers qui ont fait ce pays.
And everyone in this country is a foreigner.
Nous venons tous de l'étranger.
So you all got to do something for the foreign people.
Tu dois faire quelque chose pour les étrangers.
Because it's the foreign people that got America what America is today.
Ce sont eux qui ont fait l'Amérique.
Okay. So don't forget that, Obama.
N'oublie pas ça, Obama.
When you want to see me, you come on 126th
Quand tu veux me voir, tu viens sur la 125e rue.
And I'll tell you what the rules you should make, and then everything gonna work out fine.
Et je t'expliquerai ce que tu dois faire, et tu verras, tout ira bien.
That's from the man they call.
C'est moi qui te le dis.
Pete Shui from Belize.
Pete Shui de Belize.
Thank you, brother.
Thank you.
You're welcome, brother.
D'ici 2040, les minorités noires et latinos seront plus nombreuses que les Américains blancs d'origine anglo-saxonne. Ces minorités composent aujourd'hui l'essentiel de la population pauvre des États-Unis. L'Amérique évolue vite, très vite, au gré d'une immigration sans cesse renouvelée. Afro-américains et latino-américains pèsent de plus en plus lourd aux élections. Dans ce contexte, l'élection d'Obama représente sans doute plus l'ensemble des minorités grandissantes que celle particulière du peuple afro-américain. La communauté afro-américaine reste singulière dans cette mosaïque. Elle a été arrachée à l'Afrique de l'Ouest et a servi pendant plus de deux siècles sur le sol américain. Elle est là depuis tellement longtemps que les liens avec le pays d'origine se sont dissous. Son pays, ce sont les États-Unis. Et dans ce pays, leurs droits ne sont respectés que depuis peu. L'oppression du pouvoir blanc a été une réalité pour beaucoup de Noirs encore vivants aujourd'hui. La colère et les souvenirs amers de cette époque n'ont pas disparu. Même si les Noirs américains aujourd'hui expérimentent une nouvelle Amérique où le président est noir et où le business est indifférent à la couleur de peau, au fond de chacun, blanc et noir, l'Amérique où la couleur de peau n'évoquera plus du tout les émeutes, les lynchages, l'asservissement ou la domination, cette Amérique-là n'a pas encore vu le jour. C'était Mood Indigo, deuxième partie, Obama. Écriture, dérochage, réalisation et montage, Guillaume Istas. Prise de son et complicité artistique, Benoît Lupourcy. Mixage, Pierre Devalet. Voix off pour les traductions, David Manet, Pierre Istas, Karine Birger, Marie Vénin, Jean-Marc Delos, Marie Delay, Martin Staspelet et Cédric Juniens. Aide au dérochage, Laurent Sidezac. Production, Axel Hotel, l'ASBL. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la communauté française de Belgique. Merci à Apollo, Shabazz, Abraham Barlow, Eddie Globe, Mark Riley et Christopher Moore pour leur participation. Merci à l'Urban Academy et au Point pour leur accueil. Et merci aussi à la RTBF. Cause, guys.